Et oui, le midi, c'est ton émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Votre émission préférée du midi. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal Séva?
Ben j'espère. J'espère que ça vous tente d'être avec nous sur l'heure du lunch parce que nous, ça nous tente.
C'est-tu ennuyé de ton émission On en jase à Chicago?
Ben j'ai regardé l'actualité, puis à un moment donné, j'avais tellement de choses à dire. J'avais le goût d'en parler avec toi, puis en tout. Puis je me disais, hey, je vais fermer ça, je vais reprendre ça à mon retour.
Parfait, t'as bien fait. Bel beau week-end là-bas. Super match Bears contre Steelers.
Hey, quel match, honnêtement. Si j'avais voulu un match serré, si j'avais voulu un match avec l'ambiance, j'avais... honnêtement, j'avais pas pensé aux Bears de Chicago. J'y étais parce que j'étais dans la ville. Mm-hmm. Mais quel, encore une fois, accomplissement de la part d'une équipe pour avoir une fan base exceptionnelle. C'était plein. Il n'y avait pas un siège de vide. Autant des gens de l'équipe des Steelers que de l'équipe des Bears, par exemple. Je te dirais, il y avait un 50-50. Ouais. Mais, Caroline, Chicago,
plus vieille,
là...
Plus vieille concession de l'histoire de la NFL, les Bears de Chicago.
Incroyable.
1920.
Et moi, j'écrivais à Jeff pendant le match. « Jeff, là, toi, là, tu connais tout ça, là. Ah, t'es meilleur que moi. T'es meilleur que bien du monde. Peux-tu m'envoyer 2-3 fun facts que je ne saurais pas sur l'équipe? » Mais Chicago, c'est un très beau. Même si ça devient de plus en plus
c'est
criminalisé.
C'est ce qu'on m'a toujours dit.
Même si c'est plus difficile, honnêtement, se promener tout seul. Puis je le dis à Max, là, il y a des points sur Google Maps qui t'indiquent en temps réel où il y a eu une fusillade il y a quelques heures ou pas passé.
Oh, ouais.
Je trouve que ça s'est beaucoup amélioré, puis c'est des beaux services. Mm-hmm. Mais la scène culinaire puis la scène sportive à Chicago, là, c'est un non-sens. C'est pas deux choses qui vous passionnent de pas mettre ça sur votre to-do list de voyage.
Ah, ben c'est clair qu'il va falloir que j'aille faire un tour là. On s'en parlera un petit peu plus en détail tantôt parce que je sais que t'es allé... T'es allé te gâter, t'es allé bien manger là-bas.
Oui.
Tu le méritais.
C'est fin.
On va aller rejoindre De ce pas en direct de Montréal. D'habitude, quand je suis en direct de Montréal, c'est Rémi Villemur ou Lambert Drainville. Ben non, c'est Notanto qui est là-bas. Salut!
Allô!
Comment ça se passe dans la métropole? Est-ce que Soraya Martinez Ferrada fait un bon travail?
Écoute, toutes les vidanges sont ramassées.
Pour de vrai?
L'itinérance est réglée. Le transport collectif marche bien. Ben non. On va laisser un peu de temps à madame la nouvelle mairesse, mais non, ça va bien à Montréal.
Mais blague à part, as-tu vu la belle nouvelle en termes d'itinérance? C'est le groupe MAC qui veut construire jusqu'à 5000 logements qui seraient destinés aux itinérants. Puis là, ça me fait penser à la mise à jour économique où on a racheté 5 millions pour l'itinérance, mais en hiver seulement, donc pas encore de plan concret. Ça va prendre ça. T'sais, on a eu la famille Cossette à Québec. Là, on a le groupe MAC à Montréal. Ça va prendre des philanthropes qui vont s'en occuper parce que sinon, on s'en sortira pas.
Ben écoute, je pense qu'il faut travailler sur tous les fronts. Puis là, tu disais, puis il n'y a pas de plan clair, mais tu sais, c'est sûr que là, il y a un élément supplémentaire pour l'hiver, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites dans les dernières années. C'est pas parfait. C'est un défi qui est énorme puis qui n'est pas juste au Québec. Là, c'est partout au Canada, aux États-Unis. C'est un phénomène qui est lié au soubresaut économique. Mais quand même, la plupart des groupes ont salué le travail de Lionel Carman, qui est quitté récemment. C'est sûr que quand quelqu'un quitte, évidemment, là, tout le monde l'entend.
Il devient toujours meilleur.
Mm. Eh oui, tout à coup, tout le monde
on l'ovationne, on disait, on t'aimait donc bien, toi, finalement, on l'a critiqué, mais c'est pas grave, on l'aimait finalement.
C'est pas grave, on t'aime, Lionel. Mais oui, ça demeure un enjeu qui est tellement criant. Et je pense que l'itinérance avant, ben c'est pas que ça touchait pas les gens, mais ça ne les touchait pas directement. Mm-hmm. Maintenant, ça a commencé vraiment à affecter les commerçants, les résidents de certains quartiers. Et c'est aussi une problématique qui n'est plus seulement à Montréal, qui est un peu partout en région. Ça a pris une ampleur importante dans les dernières années. Puis ça fait vraiment partie des défis qu'on a à relever comme société. Et ce n'est pas simple. Hein,
non, mais tu as raison. Avant, l'itinérance, c'est juste pour les grandes villes. Puis même moi, qui est né à Québec, il y a toujours eu de l'itinérance, mais... c'était très minime par rapport à ce que c'est à l'heure actuelle. Fait que je me retrouvais à Montréal, parce que j'allais souvent à Montréal avec mes parents, on avait de la famille là-bas. Puis là, je voyais de l'itinérance. J'en voyais un petit peu dans le quartier Saint-Roch à l'époque, mais pas autant que là. Là le parvis de l'église est rempli de personnes en situation d'itinérance.
Les parcs avec des campements, des tentes. Même à Québec, effectivement, ça ne se voyait pas beaucoup. Et évidemment, à Montréal, Longueuil, là, je vous dis, là, c'est assez... On est en train de s'habituer à voir des gens qui vivent carrément dans les parcs, sur le bord des routes. Il y a vraiment quelque chose de
Ouais.
choquant dans tout ça. Pas choquant dans le sens il faut blâmer les personnes itinérantes, pas du tout. Mais tu sais, comme société qu'on soit rendu là, c'est quand même un constat qui est difficile.
En effet, on revient dans le domaine politique. Antonine, il y a eu deux conférences de presse intéressantes ce matin. Celle du PQ avec PSPP, même je te dirais trois. Bon, on est revenu sur Vincent Marissal. Ruba Gazal et Sol Zanetti qui ont craché leur haine sur Vincent Marissal. Mais il y a eu le PLQ avec Pablo Rodriguez et André Fortin. Et là, pauvre Pablo Rodriguez, il est toujours en train de répéter les mêmes affaires de « ben là, j'attends que Marois Risky me le dise. » Puis là, ben écoutez, elle devrait l'avoir dit à son chef. Puis là, ben écoutez, je suis là pour répondre à vos questions. Puis là, les journalistes disent « ouais, mais tu réponds pas à la question. Ouais, mais tu veux que je te dise quoi d'autre que j'attends? »
Et ça là, tourne en rond un peu. Hein?
Ben exactement. Et là, André Fortin a parlé, puis il a dit qu'il a rencontré la commissaire à l'éthique, puis qu'il a regardé avec elle. Somme toute, le Parti libéral aurait peut-être eu quelques défauts dans la gestion de son personnel à temps partiel. C'est-à-dire que des gens qui sont rémunérés à temps partiel à l'Assemblée nationale, qui travaillent après ça aussi à temps partiel pour le parti, parce que c'est une façon de les attirer puis de les faire travailler à temps plein. Puis là, ben, il y aurait peut-être eu quelques petits défauts à savoir, bon, là, est-ce qu'il était à l'Assemblée nationale ou était pour le parti, puis qui payait? Mais là, on s'entend, Tanine, je pense pas qu'on arrive avec un scandale de 3, 4, 5 millions de dollars au bout de la ligne. Là. Fait que, ben, ça me semble que ça commence à faire patate cette histoire-là. Là.
Ben écoute, je veux pas faire ma gossante puis dire je vous l'avais dit, mais moi c'est mon sentiment depuis le début de cette histoire-là. Je me dis j'espère que Marois Risky n'a pas mis le feu pour une bebelle d'une coupe de piastres qui aurait peut-être pas dû dépenser dans tel budget. Parce qu'il faut le dire là, Jeff, les gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, ils sont issus de partis politiques. Tu sais, on est bien allergique à ça. Oh mon Dieu, du travail partisan, mal, sale, c'est mauvais. Non, ben c'est vrai que les fonds publics qui sont utilisés à l'Assemblée nationale ne doivent pas servir, par exemple, à faire des cocktails de financement puis à vendre des garde-membres. C'est assez clair. Mais là, quand un chef qui n'est pas député, ça pose des problématiques supplémentaires parce que c'est le chef du parti, mais il n'est pas chef de l'opposition. Ça, c'était le rôle de Marois Risky. Puis c'est sûr qu'il va y avoir une espèce de zone grise. Puis je pense comme société, puis tu sais, je veux dire, vous savez, là, je suis pas libérale, là, tout le monde sait ça, là, tu sais, puis ça me fait un peu mal de défendre le Parti libéral et leur éthique. Mais je trouve que c'est pas un bon combat présentement. On n'est pas sur le bon picot parce que le personnel politique, là, vous, là, quand vous rentrez travailler, mettons, là, de manière générale, les gens travaillent 8 heures par jour. Il te reste une couple d'heures dans ta journée pour faire ce que bon te semble. Si toi, le soir, tu veux aller faire des événements partisans, ça te regarde. Là. Oui. À un moment donné, la journée de travail, elle dure une certaine partie de la journée. Il y a toujours eu une espèce de zone un peu plus floue entre le travail partisan et le travail parlementaire. Puis je pense que comme société, on doit l'accepter. Le Parti libéral a décidé de consulter la commissaire à l'éthique. Est-ce qu'il va y avoir des ajustements? Et s'il faut qu'il y en ait des ajustements, qu'il le fasse. Mais est-ce que ça valait la peine de lancer une bombe atomique dans ton propre parti politique de la part de Marois Risky? Je me pose la question. Il nous manque encore des informations. Mais sachez tous que les autres partis politiques aussi sont face à ces questions régulièrement. La CAQ, le PQ, tout le monde a vécu ces espèces de questionnements sur comment on utilise les fonds. Est-ce que c'est partisan? Est-ce que c'est pas partisan? Ça fait partie de la vie quand tu fais de la politique.
Est-ce que tu me permets une question un peu plus macho?
Vas-y donc.
Ça existe-tu des catfights en politique entre deux femmes, là? Je suis en train de me demander que c'est ça,
mettons,
là.
Entre femmes, la politique.
Je suis en train de me demander que c'est ça, là, entre Marois Risky et Geneviève
Hines. Je me pose la question. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis certaine que ça traverse l'esprit de pas mal de gens en ce moment de dire, écoutons, c'est un conflit de personnalité, deux femmes. Alors, abordons cette question-là ensemble. Non. Je ne pense pas que ça ait un rapport. Et des cas de fête entre deux messieurs, j'en ai vu, là, si on veut pousser la logique jusqu'au bout. Je pense qu'on est face à, en fait, bon, Marois Risky, c'est une femme forte qui ne fait pas l'unanimité partout où elle passe. Elle est reconnue pour, disons, avoir une certaine rigidité sur certaines choses et c'est pas toujours celle qui est identifiée comme étant la joueuse d'équipe. Elle a plein d'autres compétences et avantages dans la colonne des forces, là. On n'a pas besoin d'y revenir. Et elle était dans une situation où elle a un chef qui est à l'extérieur de l'Assemblée nationale et qui lui a imposé, en quelque sorte, une directrice de cabinet. C'est quelqu'un qui n'aime pas se faire imposer des choses. Probablement que la directrice de cabinet se rapportait davantage à Pablo Rodriguez, qui est un partenaire de longue date pour elle. Et on le voyait dans la réponse de Marois Risky à la poursuite de Geneviève Hinds. On parlait d'insubordination. Moi, je pense que c'est devenu une affaire de « elle ne m'écoute pas, elle se rapporte à quelqu'un d'autre » et c'était insupportable pour elle. Encore une fois, c'est ma théorie parce que Mme Risky ne s'est toujours pas vraiment expliquée.
Exactement. Donc, dossier à suivre. Mise à jour économique, Antonine, il n'y avait pas nécessairement grand-chose à dire aujourd'hui, ne serait-ce que bon, un petit milliard de moins sur le déficit, le retour
ouais.
à l'équilibre budgétaire en 2030, ça, j'y crois dur comme fer.
Vous devriez voir la face à Jeff présentement. Vous verriez le niveau de sarcasme.
Puis un petit cadeau au niveau de la RQAP puis de la RQ.
Ben, écoute, on avait monté un peu les attentes, je trouve, du côté du gouvernement parce qu'on nous avait dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des bonnes nouvelles. Tu sais, en politique, là, on dit toujours vend un peu moins et livre davantage que ce que tu as vendu. C'est une très, très mauvaise traduction
ouais.
d'une expression anglaise. Donc, un déficit un peu plus bas. Moi, je trouve que le ministre Girard fait la bonne chose en étant prudent dans sa mise à jour. On est dans un moment bien particulier avec énormément d'instabilité, d'imprévisibilité. Donc, la prudence est de mise. C'est pas le temps de distribuer des chèques et des cadeaux, même si on est en année électorale. De toute façon, il y a un autre budget là, au printemps qui est plus proche de l'élection. Là. Fait qu'on verra ce que ça donne à ce moment-là.
C'est là qu'on va baisser. C'est la taxe sur l'essence.
Peut-être, qui sait. Mais le message général du gouvernement, c'est on protège l'économie. Donc, on n'est pas vraiment en mode on développe, tout va bien, etc. On nous a parlé de soulager notre portefeuille, mais en fait, c'est vraiment plus une mise à jour économique de protection de l'économie, notamment de l'aide pour les secteurs qui sont les plus affectés par la crise commerciale. On parle de l'agriculture, des forêts et des pêches notamment. Et l'objectif, c'est de sauver des emplois. Le premier ministre avait été un peu imprudent dans ses déclarations, notamment sur les emplois dans le domaine de la forêt. Il avait dit oh, « on va perdre 30 000 jobs ». C'est à peu près l'équivalent économique de dire oh, « il faut laisser brûler Clover là, pendant les
ouais,
incendies
là,
dans
il
les
leur
forêts
donne, ». Là, il leur donne des congés de taxes là, sur la
exact.
Masse salariale. Donc, également, il leur permet des économies au niveau des charges sociales. Donc, ça fait à peu près un pactole là, de 250 millions.
Oui, ce qui est quand même intéressant pour le secteur. Puis, ben, les baisses de cotisations. Donc, sur les talons de paie des gens, nous, on cotise tous au RRQ et au RQAP, des beaux acronymes, mais il y en a un qui est pour le régime de la régie des rentes et un qui est pour les congés parentaux. Ça faisait quelques années là, pour les congés parentaux, on cumulait de l'argent parce que les gens ne font pas assez de bébés. Alors,
mais là, attendez, dans 10 minutes, comment ça les gens ne font pas assez de bébés? Attends, je vais penser. Ouais, épicerie pour 5 en fin de semaine, 327 $. OK, ouais, si je vais aller au cinéma à 5, c'est à peu près 80-100 $ parce qu'ils vont vouloir du popcorn. Ah, je suis allé au resto l'autre jour à 3 avec mon ado. Ici, Monac, 215 $. Ah, je comprends. Pourquoi on ne fait pas d'enfant finalement?
Écoute, l'autonomie des raisons économiques, mais juste aussi, si vous trouvez une place en garderie pour vos bébés, c'est bien le fun d'avoir des congés de maternité et des congés de parentaux, mais après ça, il faut trouver une place en garderie.
Il y a une liste
après
d'attente
ça,
au Québec? Ah oui,
une petite liste d'attente.
28 000 personnes. C'est pas beaucoup.
Hey. Mais ça, c'était une des propositions, plutôt que de baisser les cotisations du RQAP, de mettre les fonds qu'on accumulait parce que les gens ne faisaient pas de bébés, assez de bébés, pour développer le réseau des garderies, justement, parce que c'est bien beau de donner des congés, mais après ça, ben, quand le congé est fini, il faut aller travailler, tu n'as pas de place en garderie, tu te saignes à blanc pour payer une garderie privée ou alors tu n'en trouves carrément pas, ou tu trouves une garderie qui ne fait pas ton bonheur. Donc, évidemment, ça peut créer toutes sortes d'obstacles pour faire des bébés, mais bon, on a décidé plutôt de soulager le portefeuille des gens en baissant les cotisations. Est-ce que ça va avoir un effet en plus négatif sur les congés de paternité-maternité? Non, ça ne devrait pas avoir d'impact étant donné que on avait assez de sous là, pour payer, mm-hmm. Évidemment, les congés à tout le monde. Donc, tout va bien de ce niveau-là. Donc, on voit qu'on est passé dans cette mise à jour économique-là d'actions économiques et financières qui étaient beaucoup en réponse à l'inflation. C'était beaucoup ça dans les dernières années. Là, on est vraiment dans un autre mode, c'est crise commerciale, protéger des emplois, essayer de faire en sorte de contrôler pour ne pas avoir des taux de chômage qui sont trop élevés au Québec. C'est différent. Là, on a changé de paradigme économique.
Hey, je reviens à la natalité, puis Pascal CV, je me permets une question personnelle.
Merci.
Qu'est-ce qui te rassurerait pour avoir un enfant? Peut-être quand tu regardes le portrait présentement, tu te dis, OK, il faudrait que cette coche-là puis cette coche-là soit mieux.
Mettons qu'on évacue le fait que je veux vraiment le père de mes enfants.
Ben c'est ça. Là, mettons qu'il faut que tu trouves le bon chum qui va être le bon père. Toute la...
Je veux le nommer parce que...
Mettons que dans un monde idéal, tu as tout ça.
Oui.
Puis là, tu dis, OK, on fait un enfant. Qu'est-ce que tu vas avoir comme crainte?
Bien, c'est sûr que l'accessibilité au logement, tu sais, dans notre génération, nous, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Exactement. La garderie, je m'en fais parler, qu'il faudrait que j'inscrive mon enfant en ce moment. Si vous comprenez l'absurdité de la chose, là. Les services autour. Moi, j'aime travailler. C'est quelque chose qui me passionne. J'arrêterai pas de travailler, même si j'ai beaucoup de respect pour ceux qui décident finalement de travailler à la maison. Là. J'aimerais avoir des ressources autour de moi si jamais ce ne sera pas ma famille qui va toujours être là non plus pour colmater les brèches. Mais je pense que ça, là, c'est deux choses que j'entends et que je vis personnellement autour de moi. Donc, tout ce qui est accessibilité, garderie, école, on est-tu capable d'envoyer les enfants proches de la maison ou il faut envoyer au privé parce que le public, il y a des écoles
excellent
un peu décrépites, là. Puis ça, on en reparlera plus tard, ça me fait flasher sur quelque chose, mais je te répondrai ça. Alors, logement, service.
C'est un excellent point. Tu vois, Antonine, ça revient souvent à ce que j'ai la prétention de penser. Et là, quand je fais ça, les gens, des fois, disent « Ah, ouais, mais moi, je veux plus d'argent dans mes poches. » Faut améliorer nos services. Collectivement, faut se donner les meilleurs services. Parce que ce que Pascal vient de nommer, c'est juste ça. C'est des services à la population pour elle qui vont lui permettre de continuer à travailler.
Oui, puis on veut tous payer moins de taxes. Là, moi, je suis la première.
Ben, moi aussi,
je suis bien contente quand j'ai eu des baisses de taxes scolaires. Puis on est tous vraiment contents de ça. Mais c'est sûr que quand il faut que tu payes toi-même ton médecin au privé, puis tu trouves une garderie au privé, puis que tu envoies ton école à l'école privée, puis que là, tu te rends compte que tabarouette, quand on paye tous individuellement, c'est pas vraiment mieux pour le portefeuille plus, on s'entend.
Non, puis ça prend des méchants salaires exorbitants parce que moi, je pense à une de mes amies que parce que dans son quartier, l'école publique fait pas son affaire et envoyer ses enfants privés. Parce qu'il n'y avait pas réussi à avoir de place dans CPE, il a envoyé ses enfants dans des garderies privées parce qu'il n'était pas question que sa blonde reste à la maison. Mais tu sais, je vais te dire une affaire, il y a un salaire sûrement le triple ou le quadruple de moi, mais quand on arrive à la fin du mois, il n'y en a pas tant que ça de plus parce qu'il faut qu'il paye tout ça.
Oui, puis il paye sûrement presque 50 % d'impôts parce que c'est ça aussi.
Exactement.
Je trouve que le contrat social en ce moment est mis à mal. On paye beaucoup d'impôts et on va au privé. Tu sais, je veux dire,
c'est
à un moment
bien
donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout ça. Fait que, en tout cas, bref, on le sait qu'on est dans une situation difficile avec les services publics. Puis évidemment, tu sais, je reviens au bébé. C'est sûr que je le sais bien que les gens ne prennent pas la calculatrice quand ils se demandent s'ils veulent des enfants ou pas, mais ça fait partie du portrait.
Ben.
Avoir des enfants, c'est une décision qui est plus émotive. Mais quand tu dis « je ne serais pas capable d'avoir une maison », puis de la ligne de Pierre Poilievre, chef conservateur, qui dit souvent « une famille dans une belle maison, dans un beau quartier », c'est pas juste des décisions financières, c'est aussi des décisions de famille puis de ce que tu imagines dans ta tête pour ton projet familial. Les considérations économiques en font partie. Est-ce que moi, ça m'aurait empêché de faire un bébé? Non, pas nécessairement. Mais est-ce que je me vois avoir 4 enfants, mettons, quand je vois à quel point déjà tout est compliqué puis que ça a été dur de trouver des places en garderie? Ben, disons que tu y repenses à 2 fois.
T'sais. Ben oui, puis honnêtement, avec le week-end que je viens de vivre, Antonine, moi, ce que je dis, c'est j'en ai pas d'enfants puis je sais que ça vous coûte 3 fois plus cher. Puis là, moi, j'investis encore dans des affaires qui vont me faire plaisir. Mais le jour où je vais avoir des enfants, je sais que je vais couper dans ce genre de dépenses-là. Est-ce que ça va me déranger? Pas du tout. Par contre, si je vois que j'ai de la misère à arriver pour les besoins essentiels d'une famille avec un enfant ou deux, ou là, ça vient à être un autre jeu. Là. C'est d'autres cartes entre les mains. Couper dans le gras, c'est une chose. Avoir de la misère à arriver pour faire vivre un enfant. Puis je me considère dans un genre de salaire moyen, mettons, dans la société. Là. J'imagine pas
ça. Puis il y a beaucoup d'insécurité. C'est sûr, ça a été beaucoup médiatisé dans les dernières années, des histoires de certaines familles qui ont eu de la difficulté à se trouver des logements pendant l'été. Tu sais, je les regarde, ces familles-là, et je ne les juge pas, mais c'est sûr, tu dis, tu sais, Colin, t'as 4 enfants puis 2 chiens, là, c'est plus compliqué de trouver un logement. Tu sais, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont, des fois, repousser leur projet de famille en voyant à quel point le contexte économique puis la crise du logement peuvent être criants, de dire, ben non, tu sais, je me sens pas sécure de démarrer ma famille.
Parlant maintenant de famille, on va parler de la famille Pékis. Avant de parler du plan de paix en Ukraine, vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Anto, je te fais écouter les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon lorsqu'on lui a posé la question « Est-ce que vous êtes prêt à accueillir Vincent Marissal dans votre équipe parce que vous avez dit il n'y en aura pas de transfuge. Écoute bien ça, Anto. Tu vas comprendre que on a mis un bémol au mot transfuge.
Donc, premier.
Il n'y aura pas de caquistes au PQ, mais il peut avoir des kystes. C'est comme ça qu'on les appelle?
C'est fou, hein, comment un transfuge, c'est juste quand c'est le parti qui ne fait pas nécessairement ton affaire. Il y a tellement de choses là-dedans, Jeff. Là. Premièrement, l'animosité entre QS et le PQ, historiquement, elle était très, très forte et même plus forte qu'avec les caquistes. Hein.
Oui.
C'était comme des frères ennemis. D'ailleurs, il y a un bon livre là-dessus de Marc Desnoyers, si ça vous intéresse.
Ouais, puis là, je te jure que le camp du oui est mis à mal. Là. On est avec la gauche radicale, puis t'aurais dû voir Ruba Gazal en conférence de presse avec sa face de plâtre avant que PSPP puis Ruba soient main dans la main pour notre pays. Ouf! Il va se passer des affaires!
Pourquoi Paul aime tant Vincent présentement? C'est que Vincent fait une job de bras à Québec solidaire. Ben oui. Donc, on a l'impression que, ah, tiens, on veut accueillir des députés, des anciens de QS. Est-ce que le PQ se rapproche de QS? Au contraire, en fait, c'était du bonbon pour le PQ et pour Paul Saint-Pierre Plamondon dimanche d'écouter Vincent Marissal, à Tout le monde en parle, dire à quel point QS était déconnecté, pas bon, pas fin, tout ce que vous voulez. C'est du bonbon pour lui. Et garder Vincent Marissal indépendant le plus longtemps possible pour le PQ, super intéressant parce que là, tu as une voix libre et indépendante. Qui va nuire à Québec solidaire puis les garder probablement dans les bas-fonds parce que on sait que c'est quand même un vrai problème que Vincent Marissal a soulevé sur la déconnexion en ce moment de Québec solidaire par rapport aux préoccupations réelles des Québécois avec des 6% dans les sondages. Là, je veux dire, ce que Vincent Marissal a dit, là, il y a du vrai là-dedans.
Anto, wow. Si tu écoutes Ruba Gazal et Sol Zanetti tout à l'heure en conférence de presse à l'Assemblée nationale, ils l'ont dit aux journalistes, on reçoit des tonnes de courriels de félicitations parce que on a décidé d'expulser Vincent Marissal. Hey, leur base est là!
Ben écoute, moi je peux recevoir des courriels qui me disent bravo de à peu près n'importe quoi, mais écoute, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toute façon? Ça va mal, c'est une crise pour eux d'abord de Vincent Marissal. Puis évidemment, les solidaires vont vouloir faire une job de bras aussi à Vincent Marissal, dire qu'il n'était pas bon, il n'était pas fin, il était tout ce que vous voulez, puis c'est un magasineux de parti, évidemment. Mais pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est juste du bonbon. Parce que pour vrai, moi, je ne trouve pas que le PQ devrait le prendre trop rapidement et ou peut-être même le prendre du tout. Okay? Mm-hmm. Je ne suis pas convaincue que c'est la chose à faire, mais il se donne du temps. Et là, il a un député indépendant qui va être un boulet pour Québec solidaire. Comme la CAQ en a plein de boulets présentement, des indépendants qui sont partis et qui sont des petits électrons libres qui peuvent critiquer leur ancien parti.
Fais-nous donc la liste, là, parce que tu me dis, hey, Jeff, il y a des souverainistes en ce moment qui sont des boulets pour Québec solidaire et la CAQ. C'est qui ces souverainistes-là qui, justement, travaillent, je vais le dire comme ça, en dessous de la couverte, undercover pour le PQ?
Mais en fait, c'est pas nécessairement des souverainistes. C'est vraiment... T'as probablement... J'ai peut-être... Non, j'ai dit indépendant. C'est des députés indépendants, mais pas indépendantistes.
Ah, c'est moi qui ai mal.
Il n'y a pas de problème. En fait, bon, Vincent Marissal est un fervent indépendantiste. Moi, je l'ai appris cette semaine. Je ne savais pas que c'était une de ses dans ses trois priorités pour
être main. PSPP est allé jusqu'à dire, ben, moi, ça fait des mois que je sais qu'il faut partir indépendant. On jase tout le temps. Il a mis
Malaise quand même de rester dans Québec solidaire aussi longtemps. En défendant certaines positions puis en étant dans le caucus. Moi, je comprends quand même les gens de Québec solidaire d'être fâchés. Non, je voulais te parler du grand nombre de députés indépendants donc, qui ont quitté leur formation politique parce que c'est quand même quelque chose de particulier qui change la dynamique à l'Assemblée nationale. Donc, je fais la liste là, parmi les caquistes, Pierre Dufour, Abitibi-Est, Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, Yuri Chassin, députée de Saint-Jérôme, Isabelle Poulet, députée de... J'ai oublié sa
circonscription,
mais ça arrive ça. Merci. Ben oui, parce qu'elle a pris la porte.
C'est exactement.
Elle a fait plein de jeux de mots avec ça. Et Lionel Carman, à qui ça fait très mal, pour lequel ça fait très mal à François Legault. Donc, on a 5 caquistes qui sont des électrons libres à l'Assemblée nationale, dont Maïté Blanchette qui brasse
pas mal.
Qui fait elle aussi une
elle
job
de bras. Elle et Marissal vont être les deux indépendants qui vont le plus faire mal à leur ancien parti.
Puis il y a Yuri Chassin quand même qui est très critique, mais moins, je le trouve moins acrimonieux que Maïté Blanchette et effectivement maintenant Vincent Marissal. Et je veux juste attirer votre attention sur une des explications de tout ça. C'est que, bon, évidemment, les plaques tectoniques politiques bougent, ça crée des insatisfactions, il y a des changements de direction dans les partis, il y a plein de raisons. Mais il y a aussi une raison, peut-être qu'on est un peu dans l'angle mort, c'est qu'avant 2015, quand tu quittais, tu étais député, là, puis tu t'en allais, tu avais une prime de départ, OK? Puis ça, tu
OK.
cumules ça au fil des ans, puis après quelques années, là, c'est un beau pactole avec lequel tu t'en vas à la maison.
Comme les élus municipaux, dans le fond, là. T'sais, Claude Villeneuve est
absolument.
parti à la maison avec 142 000 $. Je peux te dire une affaire, là. Pas besoin de travailler dans la prochaine année, puis quand le téléphone Pékis va sonner, il va être prêt.
Il va être prêt, puis tu sais, ces primes-là existent pour faire une transition, parce que c'est vrai qu'aller en politique, ben tu as une étiquette dans le front après, ça peut te bloquer des possibilités d'emploi. Il y a des anciens ministres qui ont raconté comment ça avait été difficile leur vie après la politique. Donc, moi, c'est correct qu'il y ait des primes de départ. Par contre, finis ton mandat. Fait qu'en 2015, on avait tellement de démissions à l'Assemblée nationale qu'à un moment donné, il a fallu légiférer et interdire. En fait, tu ne reçois plus ta prime de départ si tu pars avant la fin de ton mandat sans raison médicale. Donc, si, par exemple, ton conjoint a un cancer ou que toi, tu as un problème de santé, il n'y a pas de problème, tu vas avoir ta prime de transition, c'est correct. Mais si c'est parce que tu es fâché après ton parti et que ça ne te tente plus, ben tu n'en as pas de prime de départ. Pierre Fitzgibbon. Oh! Excusez-moi, il y a une alarme présentement chez nous. Attendez un instant.
Mais selon ce que Antonine dit, entre autres, moi, le premier qui me vient en tête, c'est Éric Kerr. Tu sais, Pierre Fitzgibbon, qui était déjà connu du privé, qui pouvait retourner avec ses amis indépendants de fortune, c'est peut-être moins coûteux la politique, mettons,
clairement,
pour lui versus Éric Kerr. Comment il était dépeint à la fin, là? C'est quelqu'un qui était incompétent, qui n'avait pas son mot d'ordre en politique, qui n'avait pas de crédibilité. T'sais, il est parti, là, puis je pense pas qu'il y a bien des boss qui auraient employé ce profil-là qu'on avait fait à Éric Kerr.
C'est clair, net et précis que lui va avoir de la misère à se retrouver une job.
Je m'excuse, il y a eu une alarme de feu de mon côté.
Pas
ce sont malheureusement des choses qui arrivent et ce n'était qu'un
essai. T'es-tu en train de brûler
alors,
en tout? Non, t'es correct.
C'est,
okay, parfait.
Un test. Oui, effectivement. Puis je trouve que c'est un effet pervers d'avoir éliminé ces primes de départ-là. Puis c'est bien correct qu'on l'ait fait parce que finalement, les partis se retrouvent justement avec des gens fâchés qui quittent, mais qui ne quittent pas vraiment. Et ben, pour nous, analystes politiques et amateurs de politique, ben c'est super intéressant. On sort le popcorn. Mais c'est vrai que ça fait une drôle de dynamique à l'Assemblée nationale.
Oui, puis au moins, ça nous fait sauver des coûts d'élection partielle.
Exact.
Anto, on termine avec le plan de paix des Américains qui, somme toute, serait accepté par les Ukrainiens, mais ça va prendre une rencontre entre les Ukrainiens et les Russes. Je te fais entendre, et ça date de vendredi dernier, lorsque les premiers balbutiements du plan de paix étaient sortis, c'est la députée Lesia Vasysenko, une députée ukrainienne qui a passé sur les ondes de Mario Dumont. Donc, je te fais entendre ce qu'elle avait à dire de ce plan de paix-là et on se parle par la suite. On vient de donner l'Ukraine à la Russie du côté des Américains et l'Ukraine n'aura pas le choix de dire oui parce que les Américains vont arrêter des armées puis sinon, ben, les Russes vont prendre le pays en entier.
Non, c'est triste. Qu'est-ce qui se passe? La députée a vraiment bien résumé la situation et je partage son analyse. On sait que le plan qui a été proposé, en fait, à l'initiative des Américains, il faut le dire, là, M. Trump a été très actif. On avait une image de Trump qui était très pro-russe et il est devenu plus critique avec le temps avec Vladimir Poutine, mais quand même, le plan de sortie de paix demeure très, très pro-russe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ukraine doit céder des territoires à la Russie, dont le Donbass et dont la Crimée, qui a déjà fait l'objet d'une guerre aussi, la Crimée, il y a quelques années. C'est la guerre qu'on a vécue dans les trois dernières années. C'est pas nouveau. C'est des conflits qui existent depuis longtemps dans les régions qu'on dit russophones, dans lesquelles il y a beaucoup de gens d'origine russe. On demande aussi à l'Ukraine une réduction de son armée. Et ça, c'est très dur à accepter dans une région instable quand on sort d'un conflit. Tu sais, je veux pas faire des parallèles trop boiteux, mais quand même, je ne peux m'empêcher de penser, après la Première Guerre mondiale, on a désarmé l'Allemagne et ça fait partie des conditions qui ont finalement créé la Deuxième Guerre mondiale, hein, d'humilier un pays, de le mettre à genoux. On vient aussi, en quelque sorte, récompenser l'agression que la Russie a fait envers l'Ukraine. On vient renforcer Vladimir Poutine dans sa conviction que l'Ukraine lui appartient, que la région lui appartient.
Ça, c'est dangereux pour le continent européen, pour d'autres pays limitrophes.
C'est ce qui dérange le plus, là, honnêtement, je pense, dans tout ça.
Oui, exactement. Puis il faut comprendre la psychologie de Vladimir Poutine à travers ça. C'est qu'une fois que tu lui donnes ça, c'est pas vrai qu'on apaise une personnalité comme celle-là en lui donnant des concessions. Au contraire, c'est toujours plus, toujours plus. Donc, il va falloir surveiller dans les prochaines années. On demande aussi à l'Ukraine de rester neutre. Qu'est-ce que ça veut dire, rester neutre? C'est-à-dire qu'il y avait des des velléités de la part de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Je vais vous dire bien franchement, les amis, j'ai jamais trouvé que c'était une très bonne idée parce que c'est une provocation qui est beaucoup trop grande face à la Russie. Jamais la Russie pourrait accepter une chose pareille. C'est pour ça qu'on faisait un peu tout ce qu'on pouvait autour de ça, c'est-à-dire armer, mais pas envoyer de soldats, mais non pas rentrer dans l'OTAN parce que dans la tête d'un Vladimir Poutine, l'Ukraine qui rentre dans l'OTAN, c'est pratiquement un geste d'agression là, de la part du reste du monde et de l'Occident. Donc, la neutralité, bon, ça fait partie des conditions qui sont peut-être, plus durable sur le long terme. Mais c'est vraiment une sortie de crise qui est à l'avantage de Vladimir Poutine. Et on verra que si dans les prochaines années, ça permet vraiment d'avoir une paix durable. Mais je partage l'analyse de la députée, étant donné que c'est inacceptable. Ça demeure quelque chose qui est instable. C'est comme si tu fais de la chimie, là, puis tu mets plein de choses, plein d'éléments qui fonctionnent pas ensemble, ça risque d'exploser.
Oui, c'est ça, mais tu souhaites que ça explose pas, c'est ça la problématique. Antonine Yakarini, merci beaucoup pour ce caucus encore une fois, et demain, on se parle en studio.
À demain.
Salut, à demain. C'est Antonine Yakarini qui peut entendre du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase de midi à midi et demi.
C'est tellement important, je veux dire, de donner cette victoire-là à Vladimir Poutine.
Ah, ça n'a pas d'allure.
Je le comprends pas.
Moi non plus.
Je veux dire, sûrement qu'on manque quelque chose. Je veux dire, on n'est pas des experts en politique internationale, mais de voir effectivement qu'on va donner cette validation-là, cette validité à Vladimir Poutine, qu'est-ce qui va l'arrêter?
C'est ça.
Il a déjà des conflits de valeurs avec d'autres pays du côté de l'Europe. Écoute, ça va être à suivre de près.
Il a tenu tête à Donald Trump. Il a réussi à gagner sur toute la ligne. Et j'ai hâte de voir comment les pays européens vont réagir cependant parce qu'il y a un réel danger potentiel que la Russie tente de s'expansionner encore. Hey, moi, je suis en Moldavie présentement puis je me sens pas vraiment en sécurité.
Puis tu sais, je veux dire, tu laisses ça à Vladimir Poutine. S'il tente d'envahir d'autres endroits, il va se dire, ben, je vais continuer, je vais le faire pendant plusieurs années, puis à un moment donné, on va peut-être me laisser le terrain. C'est peut-être comme ça qu'il va le voir, tu sais, comme le jeu risque. Puis l'autre affaire, c'est, il y a bien des gens qui ne saisissent pas pourquoi est-ce qu'on lutte pour que l'Ukraine reste debout avec plein de scandales quand même, puis plein de façons de faire.
Oui, en effet.
Il faut se demander, c'est quoi l'avantage actuellement, puis pas l'avantage au niveau monétaire, parce que à un moment ou à un autre, n'importe quel pays va être moins fort qu'un autre pays sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan démographique. Fait que est-ce qu'à chaque fois qu'un pays est moins fort, on doit, puis ça va être vraiment simpliste comme réflexion, le laisser être conquis?
Non.
Je pense que c'est là où l'aide internationale est super importante parce que
t'as entièrement raison.
Ce genre de pays-là va continuer son envie de conquérir partout et de devenir de plus en plus fort. Ce n'est pas les mêmes valeurs occidentales que nous.
Non, et l'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite. Oui. Il y a eu de la corruption à l'intérieur de l'Ukraine et ça, on en a tous conscience. Cependant, ça reste quand même un système démocratique qui tient tête à l'heure actuelle à un système autoritaire, totalitaire. Et ça, il y a plusieurs gens qui disent bah, « on a juste à s'occuper chacun de notre pays ». Non, parce que la démocratie va y perdre au change.
Exact.
Le pourcentage de pays démocrates va diminuer dans le monde et ça va être un danger pour la démocratie dans son ensemble, chez nous y compris.
Puis des citoyens meurtris, il y a beaucoup de choses là-dedans.
Oui.
Sur l'autoroute ici, par contre, à Québec, Jeff, c'est pas facile. Oui. Il y a un accident à la hauteur de rue Soumande, direction sud, sur Laurentienne. Et je dois dire que ce qui est écrit aussi sur le Québec 51, c'est que Félix Leclerc-Est, fermeture, accès, l'autoroute Laurentienne nord et sud.
OK. Donc,
alors, il y a vraiment quelque chose là qui s'est passé.
Oui. Donc, soyez patients et 418-971-101, si vous avez des informations. Vous avez été plusieurs à réagir justement pendant la chronique d'Anthony. Sam qui répond, j'ai plus de facilité à laisser le bénéfice du doute à Marois Risky qu'à Pablo Rodriguez dans toutes ces histoires. Mmh. En effet, Marois Risky jouit présentement d'une plus grande crédibilité de Pablo Rodriguez et j'ai bien aimé Joël avec ses quatre enfants qui nous explique que c'est pas toujours évident la grande famille. Donc, merci Joël pour ton texto et n'hésitez pas à réagir au 418-971-1021. Après la pause, on va parler d'un dossier très poignant de façon humaine, c'est Valérie David, la mère de la petite Flavie. On utilise un nom, justement, emprunté pour ne pas l'identifier. Cette Flavie est atteinte du trouble du spectre de l'autisme et elle a subi des mauvais traitements dans une résidence à assistance continue, ce qu'on appelle un RAC. Donc, il y a enquête présentement dans cette résidence-là. Valérie a accepté courageusement de venir témoigner sur nos ondes. Alors, ça va être ce qu'on va vivre après la pause. Donc, on va parler de cette situation-là. Puis, c'est pas une situation unique. Oui, il y a cette situation-là en Capitale-Nationale, mais il y a également en Estrie où il y a deux autres résidences à assistance continue qui se voit être mis sous enquête là, en raison de mauvais traitements donnés à cette clientèle qui vit avec des problèmes particuliers. Donc, immédiatement après la pause, on en jase sur Boulevard 101. On s'entretient avec Valérie David.